この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Mitsu, bonjour, enchanté.
Bonjour, comment ça va?
Eh ben écoute, nous ça va bien en tout cas, et toi visiblement ça te fait plaisir de revenir à Japan Expo. En tout cas je l'ai vu dans ta vidéo, ça a l'air assez fou. Et les Japan Expo que tu faisais auparavant, bah, c'était en tant que visiteur et c'était il y a 15 ans, c'est un truc de fou quoi.
Enfin, la seule Japan Expo que j'ai faite, c'était celle qui était en 2008, du coup, l'époque où il y avait Miyavi, tout ça qui était venu. Et ouais, c'est la seule Japan Expo que j'ai jamais faite. J'ai fait d'autres conventions par la suite, où j'ai même été invité pour certaines. En 2013 par exemple, j'avais fait une petite tournée, tout ça. Mais ouais, non, c'est que de souvenirs de revenir à Villepinte après 15 ans quoi, c'est fou. Ouais.
Et moi ce qui m'a frappé dans cette... Alors, on va partir de cette vidéo-là, justement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... Mais tu viens du milieu du rock et tu faisais du rock en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu faisais en France? Parce qu'on va aussi peut-être parler aussi un peu de ce que tu faisais aussi au Japon.
Yes. Ouais, alors très rapidement, moi, j'ai commencé la musique assez jeune, au final. C'est-à-dire que j'ai eu ma première guitare, j'ai... plus exactement, mais c'était 8, 9, 10 ans. Après, j'ai eu ma première guitare. Et très rapidement, je suis tombé sur de la musique japonaise de manière assez loufoque. Hein. C'est-à-dire que je suis tombé sur un CD de l'arc-en-ciel dans un magasin totalement par hasard. J'avais jamais écouté de musique japonaise avant ça. Et je suis tombé vraiment amoureux de l'arc-en-ciel. Je suis tombé sur leur premier album, Dune en plus, qui est un album qui date de 93, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je suis tombé totalement amoureux de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, j'avais déjà une passion pour le Japon à la base depuis tout petit. Et donc en fait, j'ai vraiment eu la liaison des deux qui a fait que je me suis d'autant plus passionné par le Japon pour sa musique. Et donc très rapidement, comme je venais de commencer la guitare, je chantais un petit peu tout ça, je me suis dit, il faut absolument que je sache parler japonais, que je sache comprendre ce qu'ils écrivent, que je sache écrire des paroles en japonais, et que j'ai un groupe ou alors quelque chose où je chante en japonais. C'était vraiment une vision concrète que j'ai eu très tôt, je l'ai eu vers 10-11 ans.
Ah oui, t'as vraiment tout de suite ciblé le Japon, tu t'es dit, c'est ça, ce sera ça.
Ah ouais, vraiment, c'est... Le Japon en soi, ça a été très très tôt, vraiment, à tel point que j'ai pas vraiment de point... Dans ma vie, c'était trop tôt pour que je puisse me dire à partir de là j'ai aimé le Japon. Depuis tout petit, moi j'ai appris à lire très vite, et du coup je lisais énormément de bouquins parce que j'adorais ça. Et dans les bouquins que je lisais, il y avait beaucoup de bouquins sur l'Asie me passionnait tout petit, je sais pas pourquoi, et particulièrement le Japon, ce qui fait qu'à la maison j'avais des tonnes de bouquins qui parlaient du Japon. Donc moi le Japon c'était un pays qui me fascinait, mais vraiment tout petit, je te parle de ça, j'avais 4-5 ans. Ensuite ma mère elle m'a acheté une Super Famicom, c'est la Super Nintendo en France. J'ai commencé à jouer au jeu Mario. Et quand ma mère elle m'a expliqué que ça c'était japonais, moi j'ai fait la liaison des deux, j'ai dit, c'est les Mabulito, ils sont trop forts. Donc moi je me suis passionné vraiment d'autant plus pour le Japon. À ce moment-là, je me suis dit, moi je serai créateur de jeux vidéo plus tard, je partirai au Japon. Et à cette époque-là, pareil, j'avais 5-6 ans. Et ensuite est venu, parce que je te disais tout à l'heure, la musique japonaise qui m'a refoutu une grosse claque. Et je me suis dit, attends, il y a trop de choses au Japon qui sont passionnantes pour que je passe à côté de ça. Et du coup, j'ai commencé à apprendre le japonais tout seul en autodidacte à 10-11 ans à peu près. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer une communauté japonaise du côté de Toulouse, ce qui a fait que j'ai eu des amis japonais avec qui j'ai pu commencer à parler vraiment en japonais. Donc mon niveau de japonais, il a augmenté assez exponentiellement à partir de là. Et à côté de ça, en parallèle, de la musique japonaise. C'est-à-dire que moi, à la base, pourquoi j'ai appris le japonais? Parce que je voulais savoir lire les textes japonais, je voulais savoir écrire mes propres paroles en japonais. Et du coup, j'ai eu, à partir de mes 15-16 ans, si je me trompe pas, un petit groupe dans le sud où c'était un groupe de rock, metal, très très inspiré justement par les groupes de metal, les groupes de visuel qui est japonais. En référence, on avait Jiren Grey, on avait voilà ce genre de groupe, Gazette, etc. Et on voulait faire un truc un petit peu dans cette veine-là, avec moi qui chantais en japonais, avec une sonorité au niveau des instruments qui était assez proche aussi de ce qui se faisait au Japon, parce que le Japon il avait quand même une sonorité très très propre, il l'a toujours, mais c'est vraiment ce qu'on entendait dans le rock, dans le metal japonais, on l'entendait pas dans les autres variantes du metal à travers le monde, et c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Et donc on a essayé, voilà, tant bien que mal, de faire quelque chose. C'était très sympa, moi j'en ai encore un très bon souvenir. On a fait des petites tournées, on a fait des concerts, surtout localisés dans le sud, mais c'était vraiment cool. Et après, à partir de là, moi je savais déjà à ce moment-là que j'avais pas envie de partir au Japon. Et au final, je suis le seul qui a vraiment concrétisé ça. Il y a 19 ans, j'ai décidé de partir à Tokyo. Ouais.
Alors t'es parti à Tokyo en plus de ça, l'année de la catastrophe du Tohoku, alors on appelle ça en France, mais...
Je suis pas parti l'année, je suis parti le jour.
Ah mais le jour?
Le jour même.
C'est-à-dire encore pire, voilà.
C'est-à-dire que, au moment où ça a tremblé, j'étais à Charles de Gaulle, j'attendais mon avion pour le Japon. Okay. Et en gros, à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que moi, j'étais avec du coup tous les Japonais qui montaient dans l'avion pour rentrer au Japon. Et il y a les grands écrans à Charles de Gaulle qui diffusent les news. Et là, on avait du coup un gros tremblement de terre. On commençait à voir justement tout qui commençait à péter à droite à gauche. J'ai vu le visage des Japonais à côté de moi se décomposer en disant « Mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Et à ce moment-là, moi, j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui me dit « T'as vu ce qui est en train de se passer au Japon et tout ?» Je fais « Ouais, je suis en train de regarder l'écran en ce moment même. » Et la question s'est posée de qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres? Est-ce que tu y vas? Et tout. Ma mère voulait absolument que je rentre chez elle. Elle a dit va pas au Japon maintenant, c'est pas le moment. Sauf que je sais pas, encore aujourd'hui, hein, j'en parle souvent de cette histoire parce que il s'est passé un truc en moi où je me suis dit non, là c'est ma chance en fait. Si aujourd'hui j'y vais pas, peu importe ce qui est en train de se passer, je vais louper un truc dans ma vie. Et c'est bizarre, mais des fois, t'as ce genre de sentiment, tu sais pas d'où ça vient. Je suis pas très spirituel comme mec, mais vraiment, j'ai ressenti en tout cas à ce moment-là. Et je me suis aussi dit, s'il se passe vraiment un truc chiant au Japon, ils auront besoin de gens, en tous les cas. Et je me dis, si moi, je peux... voilà, je sais pas ce que je peux faire, mais si je peux ne serait-ce qu'aider un peu, j'ai envie de le faire. Et donc, ma mère, elle était très peu d'accord avec ça. Elle voulait que je me mette à l'abri chez elle. Mais au final, non, j'ai coupé mon téléphone, j'ai pris l'avion. L'avion, il avait 12 heures de retard. Hein, donc, moi, je suis arrivé très tard au Japon, au final. Mais tout était bloqué quand je suis arrivé, c'était le chaos total. Il n'y avait pas de train, pas de bus, pas de taxi. On a dû attendre sur place que tout bouge. Et puis voilà, au final, bah, moi, je suis vraiment arrivé à ce moment-là. Quoi.
Effectivement, c'était un vendredi soir, parce que du coup, le lendemain, on prenait l'émission, on avait fait beaucoup d'infos. Quelles sont les adresses à appeler, en tout cas le numéro de l'ambassade, etc. Enfin bref. Et ensuite, bah, du coup, toi au Japon, on parlait de Zik. On va continuer dans la Zik justement, parce que tu as eu tes projets à toi. Je dis même tes projets parce que,
ouais,
par exemple, Neki qui apparaît dans certaines des vidéos, mais pas que.
Ah, oui.
Du coup, vous avez aussi un duo. Bref, explique-nous un petit peu parce que c'est. Alors j'imagine que tout est déjà dans les vidéos pour
pas
ceux
tout,
qui.
Par exemple,
pas tout.
Le truc avec Neki, par exemple, j'en avais encore jamais parlé, tu vois. Mais,
c'est vrai.
Ouais, mais pour retracer l'histoire, alors. Moi, il y a eu déjà un tournant majeur qui s'est passé avant même que j'aille au Japon. Ça, si vous voulez vraiment tous les détails, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Mon effet papillon », où je raconte vraiment ça parce que c'est quelque chose que j'ai consenti. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de petits choix, tout petits que j'ai fait dans ma vie, qui m'ont amené à faire des grandes choses derrière. Et parmi elles, il y a moi, en fait, quand j'ai habité 6 mois à Paris avant de partir à Tokyo, pour mettre un peu d'argent de côté, parce qu'à l'époque, ma copine habitait sur Paris. Et j'ai travaillé à l'aéroport Charles de Gaulle. Et du coup, moi, je m'occupais, comme je parlais déjà japonais à ce moment-là, je m'occupais de la clientèle japonaise. Et on avait des rythmes particuliers où, en gros, on travaillait 3 jours le matin, 3 jours l'après-midi, 3 jours de repos, et puis on tournait comme ça. Et il y a un jour où, en gros, moi, j'étais sur mes 3 jours de repos, et je reçois un coup de fil le matin, 5h du matin, de ma manager qui me dit « L'autre personne qui parle japonais, elle a chopé la crève, est-ce que tu peux pas venir pour le remplacer ?» Et moi, à ce moment-là, j'ai un choix à faire. Je me dis, est-ce que j'y vais pas, c'est mon jour de congé, voilà, tu vois. Mais je sais pas, je me dis, ouais, bah vas-y, je viens, pas de souci. Et du coup, j'y vais. Et ce jour-là, je rencontre, parmi les clients dont je m'occupe cette journée-là, je rencontre 2 filles japonaises qui sont sur le retour. Elles étaient en vacances en France et elles retournent à Tokyo. Et on discute, je les aide un petit peu, tout ça. Je leur explique que moi, j'ai prévu de partir au Japon et tout. On s'entend super bien. Elles me filent, du coup, leur meishi, leur carte.
Leur carte de visite.
Ouais, carte de visite, voilà. Ouais. Et elles me disent, bah, si tu viens à Tokyo, n'hésite pas à nous contacter, on recontactera et tout. Mais du coup, voilà, elles avaient un petit peu mon background parce qu'on avait discuté, on avait sympathisé. Elles avaient été super sympas avec moi et tout. Et puis, voilà, moi, j'ai une petite carte de visite de quelqu'un. Moi, je disais, quand j'irai à Tokyo, je ne saurais pas tout ça, je connaîtrai quelqu'un. Donc, on avance un peu dans le temps. J'arrive à Tokyo. Moi, il m'arrive tellement de galères avec le tremblement de terre, tout ça, qu'au final, la carte de visite, elle est bien dans un sac quelque part, mais je ne la regarde pas. Et au bout de peut-être un mois après que je suis arrivé, entre-temps, je suis allé à Kyoto, tout ça, je suis désolé, mais c'est beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Je retourne à Tokyo et je retrouve la carte de visite et je me dis, ah ouais, tiens, c'est vrai, il y a cette nénette-là, je ne l'ai pas recontactée. Donc, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je suis bien arrivé, surtout pour la rassurer, parce qu'elle savait que je venais en mars, donc elle se demandait peut-être. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, bah écoute, je suis bien arrivé à Tokyo, tout va bien. S'il y a moyen de se revoir, bah, c'est avec grand plaisir. Et elle me rappelle, genre, je sais plus, c'est quelques minutes, quelques heures après, mais je sais que c'était très court. Elle m'a dit, bah écoute, ce soir, on est à Kichijoji, qui est un quartier de Tokyo, on va boire un verre avec l'autre fille qui est avec moi et avec un gars que j'aimerais bien te présenter. Je me dis, mais quoi? D'où elle veut me présenter quelqu'un? Mais je me dis, pourquoi pas, dans tous les cas, c'est cool. J'y vais, je me rends du coup à Kichijoji, on arrive dans un bar, mais genre vraiment le bar huppé. Moi j'ai pas de thunes à ce moment-là, j'ai 19 ans, j'ai plus de thunes et tout. Je me dis, mon Dieu, comment je vais payer tout ça? Je me laisse guider par la chose et je me retrouve assis à une table avec du coup les 2 filles que j'avais rencontrées quelques mois plus tôt à l'aéroport et 2 gars bien sapés, des gars qui ont fin de trentaine, début de quarantaine. Et on commence à discuter, les mecs ils font, ouah, Mitsu, on t'attendait et tout. Trop bien que tu sois arrivé, les filles elles nous ont parlé de toi, tout ça. Je me dis, mais d'où les gens parlent de toi à ce moment-là? Moi j'ai juste rencontré une journée, pour pas dire quelques heures, à l'aéroport. Et je me retrouve quelques mois plus tard, on me dit, ouais, on t'a présenté des gens, je comprends pas. Et on discute, et ils me posent plein de questions par rapport à la musique. Ils me disent, ouais, il paraît que t'aimes bien la musique japonaise. Alors je leur dis, ouais, je leur explique le fait que j'ai rencontré l'arc-en-ciel, enfin que j'ai découvert l'album de l'arc-en-ciel quand j'étais petit, que ça m'a donné de l'amour pour la musique japonaise, et que depuis j'ai fait mon groupe, etc. Et que là voilà, je suis venu avec juste une guitare sur l'épaule, je sais pas quoi, mais j'ai juste envie de faire la musique au Japon, et je vais tenter, voir où ça me mène, et puis si ça marche pas, tant pis, je rentre, quoi. Je leur raconte juste mon histoire, et je vois que les mecs, ils m'écoutent beaucoup et tout. Et on finit cette soirée et c'est incroyable, ils me régalent, ils ont tout payé pour moi. Alors moi ça me rassure beaucoup à ce moment-là, mais après je suis un petit peu forcément gêné, mais ils me disent non t'inquiète, pas de souci, c'est nous qui t'avons invité, il n'y a aucun problème et tout. Donc vraiment ils sont adorables. Et on sort de ça, ils me disent ouais, est-ce que ça te dit de faire un karaoké quand t'écoutes chanter? Tu vois, let's go, karaoké, pas de souci, quand tu veux, tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc on part au karaoké et sur le chemin, il y a un des deux monsieur qui me dit je me rends compte que on a beaucoup parlé de toi. Tu vois quand même qui on est, mon pote et moi, ou pas? Et je fais pas du tout. Et il fait, bah du coup, le gars qui est à côté de moi, c'est un des gars qui bosse du coup à Télé Asahi, et c'est aussi un des patrons de Big Echo, qui est donc une des plus grosses structures de karaoké du Japon. Et il dit, et puis moi, du coup, je suis le manager de l'arc-en-ciel.
Ça va.
Voilà.
Effectivement.
Tu vois, et ce mec-là, au final, c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai été très proche, c'est devenu presque une figure paternelle pour moi au Japon. Il m'a beaucoup aidé dans plein de moments et tout. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'au final, lui, ça a été mon premier point d'entrée dans le milieu musical japonais. Parce que forcément, bah, quand tu connais le manager de l'arc-en-ciel, tu rencontres des gens par la suite. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que via lui, j'ai rencontré plein de gens, mais je n'ai pas rencontré l'arc-en-ciel. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que juste le fait qu'il m'ait présenté d'autres gens, par la suite, j'ai fait des choses et des choses et des choses. Et c'est là où je parle d'effet papillon. Où juste j'ai rencontré des gens avec qui j'ai sympathisé, qui m'ont présenté des potes à eux, etc. Et je me suis retrouvé à peine 3 mois après mon arrivée au Japon à être dans une soirée où il y avait le chanteur de l'arc-en-ciel, le chanteur de l'acide Black Cherry, il y avait Daigo, il y avait le papa de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il foutait là, je sais pas, mais il était là. Et encore une fois, je venais d'arriver au Japon, ça faisait 3 mois que j'étais là. Et j'avais juste tous les gens de qui j'étais fan, tous les gens qui m'ont inspiré, les gens qui m'ont donné envie de faire de la musique. Ils étaient devant moi, je discutais avec eux, je buvais des coups avec eux. Et je me suis dit, il y a un truc de taré qui se passe dans ma life, tu vois. Et du coup, à partir de là, c'est dur à tout raconter parce qu'au final, je me rends compte que j'étais tellement tête dans le guidon. Moi, je vivais les choses au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et elles arrivaient avec des tractopelles, tu vois. C'est d'arriver des événements où, du jour au lendemain, on disait, ah tiens, tu veux pas aller boire un coup? Et là, je me retrouvais avec tous les groupes de visuels qui est du moment. Il y avait des The Kiddy, il y avait Seed, il y avait Alice Nine. Et je suis devenu pote avec tous ces gars-là, mais du jour au lendemain. Et je comprenais pas. Parce que moi, j'étais juste le petit français qui est arrivé avec une guitare. Et du jour au lendemain, on me dit, bah tiens, tous ces gars-là, maintenant, c'est tes potes. Je fais, waouh. Je suis très nostalgique de toute cette époque-là parce qu'au final, je me suis retrouvé à partir de là pendant des années, malgré mes galères, malgré le fait que moi, je continuais d'avoir un petit boulot à côté pour essayer d'avoir un petit peu de thune, tout ça. Bah, la réalité, c'est que voilà, je travaillais le midi dans un resto ou dans une pâtisserie et puis le soir, j'allais boire des coups avec les groupes les plus connus du Japon. Tu vois. Oui, et puis, ouais, et puis encore une fois, les gens qui m'ont inspiré à venir, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Hyde pour la première fois, c'est quand même la personne sans qui j'aurais peut-être jamais eu cet amour pour la musique japonaise, parce que c'est son album à lui qui m'a fait connecter, qui m'a fait me dire, putain, la musique japonaise, c'est un truc de dingue. Alors peut-être, tu me diras, j'aurais pu écouter un autre truc plus tard. Peut-être, mais peut-être pas. Et me retrouver avec cette personne que j'ai du coup adulée, qui m'a donné tous ses espoirs, tout cet amour pour la musique japonaise, et le rencontrer direct en arrivant, c'était une grosse claque que j'ai prise.
C'était à la hauteur de ce que tu espérais.
La personne, tu veux dire?
La personne, l'aura.
Ouais, complètement. Il faut savoir que Hyde, pour le coup, dans le milieu de la musique au Japon, on l'appelle le papa. Parce que vraiment, c'est une figure paternelle pour tout le monde. Et tu sens vraiment que tous les musiciens qui sont plus jeunes que Hyde, du coup, tous les gens qui sont arrivés après l'arc-en-ciel, ils voient vraiment tous en Hyde quelqu'un qui est un petit peu... le mec qui soutient un peu tout le monde, il est vraiment aux aguets. Quelque chose qu'il y a de surprenant avec Hyde, c'est que par exemple, quand j'ai rencontré pour la première fois, c'était une soirée, il y avait 200 personnes. Et tu sentais qu'il avait l'œil partout. Et il y a un moment, par exemple, où moi je l'ai vu, il y avait une jeune fille qui était une nouvelle chanteuse, un petit peu, qui commençait un petit peu à percer son trou, mais elle était très timide, elle n'osait pas parler parce qu'elle était toute jeune en fait dans ce milieu-là. Et il a vu qu'elle était toute seule, il s'est rendu vers elle, et il a dit vas-y, on va discuter, raconte-moi un petit peu. Et juste, il a pris du temps pour discuter avec elle pour qu'elle ne se sente pas seule. Tu vois. Et Hyde, de manière générale, c'est le gros rocker, etc. Tu vois l'image de Hyde qui fait ouais! comme ça, mais la réalité, c'est que c'est un mec qui est tellement gentil, tellement bienveillant avec tout le monde. Et vraiment, juste, il est. Il est ultra bienveillant. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois à partir de là. Et à chaque fois, moi, je me disais c'est bon, il ne se souvient plus de moi. Je lui dis on avait à peine discuté et tout. Il me fait ah, mais tout, ça fait longtemps, tiens. Et à chaque fois, il est trop gentil, quoi. Et c'est un délire.
Il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes en plus dans ces soirées. Donc il le ressent, il le sent. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Parce que du coup, on parle des groupes d'il y a... Bah maintenant, mine de rien, on se fait vieux. C'était il y a 10 ans.
Je n'ai même pas parlé de mes projets au final.
Oui, c'est...
À la base, je parlais de ça, je suis désolé, mais j'ai tellement envie de trucs.
Eh bien, on va se rattraper. J'ai juste une question. Vas-y. Parce qu'on parle de ces groupes-là d'il y a 10 ans, mais qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui comme musique japonaise?
Bah, écoute, c'est surprenant parce que, alors déjà, il y a un effet bizarre et je le vois chez beaucoup de gens, c'est que quand je suis en France, j'ai envie d'écouter que de la musique japonaise. Et même là, tu vois, ce matin, je me suis levé, je prenais ma douche, je mettais du Asian Kung Fu Generation, tu vois. Donc voilà, je sais pas, c'est ce qui me connecte au Japon, en fait. Mais quand je suis au Japon, comme je suis déjà au Japon, et je me suis mis au bout d'un moment à m'intéresser à beaucoup de musique qui n'était pas japonaise. Et j'ai trouvé un amour de dingue dans une certaine forme de musique britannique. Par exemple, tous les groupes de metal, néo-metal britannique, il y a des groupes de dingue. Pour vous donner des noms comme ça, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, un de mes groupes favoris aujourd'hui, c'est Bring Me the Horizon. Ils sont incroyables, ils se renouvellent tout le temps. Ils sont très proches, je trouve, même de l'extravagance qu'on peut avoir au Japon, par exemple, dans certaines choses.
Plus mélodique que certains.
Ah, complètement, ouais. Surtout depuis que Jordan Fish est arrivé avec l'album Sempiternal et tout, ça donne un coup de boost à Bring Me. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie des groupes les plus extravagants, novateurs, intéressants à écouter, je trouve, en ce moment. Un autre groupe incroyable anglais que j'écoute beaucoup, c'est un groupe qui s'appelle Nothing But Thieves. Pour moi, c'est les dignes héritiers de Muse, en fait. C'est les mecs, ils ont pris ce côté un peu...
Grandiloquent,
épique de Muse. Et ils ont rajouté une espèce de vibe extrêmement pop, extrêmement alternative. Mais le rendu, il est incroyable. Et chaque album, chaque son qu'ils font, c'est une énorme claque. Là, ils viennent de sortir leur nouvel album. Je préfère peut-être celui d'avant, mais ça reste quand même une claque. Tu l'écoutes, tu dis, ouais, mais dans quel monde ils me transportent? Et c'est le mot, ils te transportent dans un monde, ces gars-là. Très très fort. Et pour en revenir au Japon, sinon du coup, actuellement les groupes que j'écoute beaucoup, alors il y a un groupe qui existe depuis très longtemps mais les gens l'ont découvert très récemment, c'est Radwimps. Radwimps, il faut savoir que moi je l'écoute depuis le collège. C'est-à-dire que Radwimps, ils ont eu une carrière bien avant Your Name, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont découvert parce que maintenant ils travaillent avec Makoto Shinkai et du coup toutes les bandes son des films de Makoto Shinkai, c'est Radwimps. Mais moi j'invite sincèrement les gens qui aiment la musique de Radwimps via les films de Makoto Shinkai d'aller voir ce qu'ils ont fait avant, parce que tous leurs vieux albums, mais dès les premiers albums de Radwimps, leur premier album c'est 2006 si je me trompe pas, c'est une claque, mais ils sont novateurs. Tu sens que le chanteur qui a le mec, il est totalement bilingue, il a vraiment une très grosse compréhension et de la musique et de ce qui se fait à l'étranger et de ce qui se fait au Japon, et il a réussi à créer un mix incroyable où il y a des chansons, c'est complètement farfelu, mais quand tu rentres dans leur délire, tu te dis waouh, ces mecs là ils ont tout cassé. Et vraiment j'adore. Un autre groupe que j'aime beaucoup depuis très longtemps aussi, qui fait partie d'ailleurs du même groupe que l'Arc-en-Ciel, c'est Maverick, que je connais bien du coup, c'est Lintos Teshigure. Si vous connaissez pas Lintos Teshigure, vous connaissez tous quelque chose de Lintos Teshigure.
C'est Tokyo Ghoul.
C'est Tokyo no Ghoul, voilà. parce que du coup, Tike, lui, il a fait sa propre carrière solo à côté. Mais la réalité, c'est que Tike, si vous aimez bien la chanson du coup de Tokyo Ghoul, et ben à la base, lui fait partie d'un groupe qui s'appelle Lintos Teshigure et qui est pareil, un des groupes. Mais vous prenez une énorme claque à chaque album. J'adore Lintos Teshigure, c'est incroyable. Un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois au Japon. En France, on connaît bien, parce qu'en France, il y a eu un impact énorme avec No Life à l'époque. C'est anciennement Uplift Spice.
Oui, de Moose.
Moose Moose maintenant, ouais. Qui reviennent d'ailleurs. Là, ils ont réannoncé une tournée et tout. Je suis trop content, parce que la chanteuse a été tombée enceinte, tout ça. Elle s'occupait de son enfant, c'est normal. Là, ils reviennent en force. C'est un groupe qui a toujours été, pour moi, dans la musique japonaise en tout cas, enfin dans la scène japonaise, sous-côté. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a une exposition, en France, il y a une exposition incroyable où ils ont fait Japan Expo, ils ont fait des scènes de fous, et vraiment en France, les gens, ils avaient l'impression que c'était des rostas. La réalité, c'est qu'au même moment, à Tokyo, ils jouaient dans la rue pour essayer d'avoir un petit peu de... C'est-à-dire que voilà, c'est fou en fait, ils n'ont pas du tout la renommée qu'ils ont en France, au Japon. Il y a eu un délire avec leur agence, tout ça, qui a fait qu'ils ont arrêté Uplift Spice, et maintenant ils s'appellent The Moose Moose, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu pas mal d'affaires. Mais au niveau juste musicalement parlant, quoi, c'est fou ce que ces gars-là arrivent à proposer.
c'est déjà pas mal, mais on va arrêter de te mettre en arrière, en retrait. Maintenant, on va passer un petit peu plus à tes projets à toi. Parce que t'as une carrière dans l'entertainment, je vais y arriver, une carrière à la télé, une carrière musicale, justement. Parce que tu continues toujours, bien entendu, à produire du son, justement.
Ouais, alors j'ai eu plusieurs projets en réalité. Le plus récent, c'est le projet Mitsugi que j'ai lancé il y a quelques temps. Je vais revenir dessus juste après. Le premier projet que j'ai eu, c'était un projet qui était beaucoup plus punk. Que j'ai lancé vraiment en arrivant au Japon. Je me suis dit, bah moi je suis venu pour faire de la zik. À la base, j'avais qu'un visa d'1 an. Je me suis dit, j'ai pas de temps à perdre. Malgré toutes les galères, malgré le fait qu'à un moment je vais se retrouver SDF, tout ça, j'avais quand même ma guitare avec moi. J'ai dit, let's go, je fais du son. Et à ce moment-là, l'ancien guitariste que j'avais en France, du coup, le guitariste de mon groupe en France, lui, il s'est dit, bah Mitsu, moi j'aimerais bien faire un truc avec toi. Il est venu au Japon. Il a pris un visa d'1 an aussi, Working Holiday. Il est venu. Et du coup, à deux, on a côtoyé d'autres musiciens japonais. Et avec un bassiste et un batteur, on a fait un groupe. Qui s'appelait Relic Sound à l'époque. C'est un groupe qui n'a pas duré très longtemps au final parce qu'on n'a pas su aller suffisamment rapidement là où on voulait. Lui, son visa, il s'est terminé et il n'a pas renouvelé derrière, il est rentré en France. Mais c'est un groupe qui était sympa parce que c'est le premier groupe que j'ai pu mettre en avant auprès justement des musiciens que je côtoyais à ce moment-là. Donc le manager de l'Arc-en-Ciel, il venait à nos concerts par exemple. Alors c'est un groupe qui était très... Indies, mais vraiment le Indies de chez Indies. On avait un son qui était bien crado, c'était très punk encore une fois.
Ce qu'on appelle en France underground, mais oui,
ouais,
pour les
vraiment,
Japonais,
mais
c'est Indies, voilà.
Ouais, mais c'est vraiment underground pour le coup. Hein. C'est le underground à l'intérieur de l'Indies. Et en vrai, j'en ai des très bons souvenirs. Je sais qu'à ce moment-là, je vais pas me mentir, hein, on n'avait pas le niveau. On n'avait pas le niveau pour être professionnel, mais moi, je gardais quand même cette optique-là. Et on apprenait. Et surtout, on apprenait. Déjà, nous, on était des jeunes musiciens, mine de rien. C'est-à-dire qu'on avait eu. On avait fait des choses en France, mais on n'avait pas eu une carrière de malade non plus. Tu vois. Donc, on réapprenait vraiment le métier au Japon, sur la scène japonaise. Comment ça fonctionne, ne serait-ce que faire des concerts sur des live house, par exemple. C'était fou. T'as le principe du norma. Tu connais le principe du norma, je suppose.
Non,
les gens ne connaissent pas. Le principe du norma, c'est simple. C'est, en gros, il y a énormément de live house au Japon, à Tokyo, qui sont des scènes ouvertes un peu, où parfois t'as des événements, etc. Mais où tu peux très facilement, quand t'es un groupe, faire des concerts. Et du coup, ils ont un principe, parce que tu dis ouais mais il faut bien payer ce truc là, il faut bien que ça rapporte des sous à quelqu'un au bout d'un moment. Et donc en fait eux ils ont un principe qui s'appelle le norma. C'est quoi? C'est qu'en gros on va dire un ticket ça va être par exemple 2000 yens, on va faire ça simple. Toi ton norma par exemple c'est 20 tickets, donc ça veut dire que s'il y a 20 personnes qui viennent te voir et qui achètent le ticket, toi t'es à zéro. Tout ce qui est plus que 20 tickets c'est pour toi. S'il y a moins de 20 tickets par contre, ce qui manque sur les tickets c'est à toi de le payer. Donc en gros, admettons, t'as 10 personnes qui viennent te voir, t'as un norma de 20 tickets, bah toi t'as du coup 10 fois 2000 yens, donc 20 000 yens, donc 200 balles on va dire, à payer de ta poche. Par contre, si t'as 30 personnes qui viennent, bah t'as 10 tickets qui sont pour toi, du coup bah c'est à toi que reviennent les 20 000 yens. Ça c'est le norma. Quand t'es un jeune groupe, c'est génial hein, d'avoir ces scènes-là, par contre t'as pas de thunes, tu dis ouais, si j'ai pas au moins 20 personnes qui viennent, vas-y, je vais devoir rinquer 200 balles et tout. C'est horrible, tu vois. Donc tous les groupes au Japon qui commencent, ils font face à ça. Mais du coup voilà, nous on apprenait, tu vois, et forcément on avait des groupes, moi j'avais déjà pas de thunes, je me disais ouais, si on n'a pas suffisamment de gens, et à chaque fois il nous manquait 2 tickets, on disait bon vas-y, on répartit les 4000 yens, ça va, tu vois, je veux dire, mais c'était des vagues comme ça. Donc on a appris vraiment sur le tas, et puis le groupe s'est arrêté au bout d'un an assez naturellement au final. À partir de là, je me suis dit, est-ce que vraiment je suis fait pour un groupe ou pas? Je sais pas. J'ai un peu hésité. J'ai commencé à faire un petit peu un truc en solo, qui était plus quelque chose acoustique. Je suis passé par beaucoup de gens. Mais j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là qui m'a dit, j'aime bien ce que tu fais en acoustique, vas-y, on essaie de démarcher des gens avec ça. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bah, moi j'ai un studio, c'est un gros producteur japonais. Il m'a dit, passe à la maison une après-midi, juste tu me fais 2 sons à toi, on les enregistre, ça te fera une petite maquette, on pourra le présenter aux gens. Donc j'ai fait ça. Avec ce projet-là, j'ai réussi à signer vite fait dans une petite boîte japonaise, qui est en réalité une grosse boîte, mais c'était pas ouf ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais ça m'a permis une chose, ça m'a permis à un moment où j'ai été dans une galère de visa, à pouvoir faire une tournée en France. Et je me suis retrouvé en 2013 à faire une tournée française en tant que Mitsugi, en solo, où j'ai fait des conventions. J'ai pas fait la Japan Expo, mais à l'époque j'avais fait des conventions à Nantes, j'avais fait convention à Clermont-Ferrand, j'avais été à Béziers, j'ai fait comme ça 5-6 conventions pendant les quelques mois où j'étais en France, et c'était super sympa. Ça m'a permis de renouer vraiment avec la scène, avec un public français. C'était vraiment génial. J'ai très bien vécu tout ça, sauf une convention dont j'ai parlé sur ma chaîne, la fameuse convention.
Dont on parlera pas.
On parlera pas. Et du coup voilà, donc j'ai vu ça et je retourne au Japon et je me dis ok, la tournée que je viens de faire, ça m'a juste fait comprendre un truc, c'est que j'ai pas envie d'être solo, j'ai envie d'avoir un groupe avec moi. Donc il faut que je refasse un groupe. Et du coup, je reviens au Japon et je me dis, vas-y, je redémarre des musiciens japonais et je refais un groupe. Mais genre, j'essaie de faire le meilleur groupe possible. Et là, j'ai pris du step up depuis parce que j'ai côtoyé plus de gens. Je connais mieux le milieu, voilà. Même au niveau, moi, de mes compositions musicales, de ma voix, je me suis amélioré depuis. Et du coup, je connecte avec des gens qui étaient incroyables, vraiment. On était un groupe, on a créé un groupe qui s'appelait Anti-Hero Superstar. Anti-Hero Superstar, ouais, vraiment. Et vraiment, c'est un groupe, on a vraiment mis le paquet dessus. C'est-à-dire qu'on a été produit par... tu connais Green, par exemple?
Oui.
Green, c'est un des plus gros groupes de pop japonais. Bah, le producteur, il s'appelle Jin. Jin, c'est aussi, par exemple, le guitariste de Pay Money to My Pain. C'est, voilà. Okay. Et Jin, il faut savoir que c'est le frère d'un des chanteurs de Green, et c'est lui qui les a produits depuis le début, mais le mec, à la base, il est dans le néo-metal.
Bah, oui.
Et dans le néo-metal, dans le metalcore, tout ça. Et le mec, à côté de ça, il produit le plus gros groupe de pop. Voilà. Et ce mec-là, du coup, bah, nous, on le connaissait. Et ce mec-là, il a dit, bah vas-y, mes musiciens à moi, ils ont tous un studio, on va vous enregistrer. Et du coup, on a enregistré notre premier single. Incroyable, vraiment, je l'ai encore le single et je me l'écoute encore aujourd'hui parce que j'adore ce qu'on a fait. Mais ce qui s'est passé en gros, c'est qu'on a tourné, surtout dans Tokyo. On a fait masse de concerts. À un moment, on avait genre 1-2 concerts par semaine. C'était trop bien, ça demandait beaucoup d'argent. À cette époque-là, moi, à côté de ça, je bossais du coup dans des bars, dans des machins. Je me faisais plus de thunes, je charbonnais. Mais je charbonnais au point de m'exténuer, c'est-à-dire que j'avais plus de vie. Vraiment, j'étais à la limite du burn-out tout le temps. Je me suis évanoui plein de fois à cause de tout ça. Mais on tenait parce que le groupe était vraiment cool, on avait des bons retours, on s'éclatait, on avait une interview en France et tout, c'était un délire quoi. Mais au final, il y a un moment où on s'est rendu compte que moi j'avais très envie d'aller vers les majors. Donc moi je visais vraiment majors. Et les autres gars avec qui je bossais, eux, ils avaient vraiment envie d'aller loin, mais en tant qu'indies.
Ouais, de rester indies, voilà.
Parce que indies, ça te propose quand même d'avoir beaucoup plus de liberté artistique, d'être, si t'as envie de faire un truc un peu plus underground, et d'être vraiment libre au niveau créatif, c'est vrai que les indies, c'est plus ouvert. Mais moi, je me dis, non, moi, je suis venu pour être major, les mecs. Je veux pas être indies. Et à un moment, ça a créé une espèce de scission où, du coup, on voyait qu'on allait plus vers le même chemin et tout. Et au final, assez naturellement, moi, je voyais qu'eux, ils s'entendaient tellement bien entre eux, ils étaient tellement forts. Ils faisaient tellement de musique trop bien. Je me disais, je peux pas non plus être trop... trop égoïste, tu vois. Et je me dis, non, en fait, je sens qu'eux, à trois, ils peuvent faire un truc de ouf. Donc, j'ai préféré me retirer. Et je me suis retiré, du coup, du projet Anti-Hero Superstar qui existe encore aujourd'hui. Depuis, c'est le guitariste qui est devenu guitariste-chanteur. Ils ont des nouvelles personnes qui se sont greffées au groupe. Et ils continuent de tourner un petit peu en tant qu'indies, du coup. Et je suis très content. J'écoute ce qu'ils font de temps en temps. Mais du coup, voilà, non, ça, c'était... ma dernière expérience en tant que groupe, et à partir de là, du coup, moi un petit peu déçu, j'ai commencé à faire plein d'autres choses. J'ai eu mon bar, tout ça. Je me suis pas reculé de la musique, mais je la faisais plus un petit peu en soum-soum. Et c'est là que vient le projet avec Neki. Neki, donc que tu connais, hein, forcément, les gens qui regardent peut-être la chaîne de Louis San l'ont vu dans certaines vidéos, les fameuses vidéos avec les Japonais, celui qui a les cheveux longs, c'est Neki. Il faut savoir que Neki, moi je le connais depuis 10 ans maintenant. Donc c'est moi qui l'ai présenté à Louis en fait pour qu'il fasse la vidéo, et c'est moi qui l'ai présenté à Leslie aussi. Voilà, donc si les deux sont ensemble aujourd'hui, c'est moi qui les ai présentés l'un à l'autre. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on adorait faire de la musique à deux. Lui, il est musicos aussi à la base. Il a fait plein de projets en soum-soum que les gens ne savent pas, mais il y a plein de projets de gros artistes japonais où lui, derrière, il était en composition, il était en traduction des paroles, tout ça. Il bosse dans le milieu musical, il a beaucoup de, comme moi, beaucoup de connaissances dans ce milieu-là depuis très longtemps. Et on adorait faire de la musique à deux, et à un moment on s'est dit, putain, mais pourquoi on fait pas un truc ensemble, en fait, c'est con. On adore faire un truc ensemble, pourquoi on le fait pas? On a du temps, et vas-y, let's go, on fait un truc. Et du coup, on a créé un groupe qui s'appelait NMY, Enemy, donc parce que ça sonne comme ennemi, un ennemi. Et surtout, ça fait N, c'est Neki, M, c'est Mitsu, et le Y, c'est le E en espagnol. Donc du coup, c'est le principe du groupe Enemy, c'était que pour chaque chanson qu'on faisait, en gros, c'était un featuring avec un autre artiste. Et du coup, en gros, c'était Neki Mitsu et un autre artiste.
C'est très contraignant pour le coup.
C'est très contraignant.
À chaque fois avec qui travailler.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de chansons. Mais du coup, on a fait la première chanson qui s'appelait Pain, Pleasure, Passion, qui est une super chanson que j'adore, avec Nana Hattori. Nana Hattori, par exemple, elle fait les chœurs de Hyde sur les concerts. C'est elle qui fait beaucoup de traductions. Par exemple, si Hyde chante en anglais aujourd'hui, c'est Nana qui lui fait les traductions et qui lui a appris l'anglais, par exemple. Donc Nana, elle est pareil, un peu incognito dans le paysage musical japonais, mais elle est très présente. Elle bosse avec beaucoup de gens. Elle a bossé avec Gackt, elle a bossé avec dernièrement, comment il s'appelle, H. Dahiro, je ne sais pas si vous connaissez, H, incroyable aussi. Et du coup, pour moi, Nana, c'est vraiment l'équivalent de Ariana Grande au niveau de la voix, au niveau de... Oh, elle a une voix de dingue, et je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas percé dans la musique, parce qu'elle a essayé. Elle a fait des groupes, elle a fait une carrière solo, tout ça. Mais bon, tout ça pour dire qu'on s'est dit, Nana, c'est une bête de pote à nous, à Neki et moi. La première chanson qu'on fait, c'est avec elle, c'est obligé. Parce qu'elle a une voix de ouf et on veut vraiment faire un truc avec elle. Et du coup, on a fait cette chanson, Pain, Pleasure, Passion. Et cette chanson, c'est dingue, parce que je suis youtubeur aujourd'hui. Ma première expérience de réalisation vidéo, c'était le clip de ça. Je l'ai fait avec mon iPhone à l'époque. J'ai juste acheté un gimbal pour stabiliser les plans, mais j'ai fait ça avec un iPhone 7. Et c'était la première fois que je réalisais une vidéo. Je me suis mis sur Final Cut, j'ai fait le clip. Le clip, c'est moi qui l'ai fait de bout en. Et cette chanson, elle est géniale. On a fait à l'époque un truc et tout. On a fait une autre chanson par derrière qui était vachement sympa, qui s'appelait 21 Gram, avec un autre pote qui, lui, était plus justement metalcore, tout ça. Vraiment génial aussi. Et à partir de là, on a été très occupés, Neki et moi, chacun de notre côté. Et au final, on a plein de démos en stock. On a une dizaine, une quinzaine de musiques en stock. Mais bah, on n'avait pas le bon feat, on n'avait pas le machin. Et juste problème de timing, au final, il n'est pas terminé le groupe. On n'a jamais vraiment dit on arrête, mais on n'a rien ressorti depuis. Donc on a fait ça pendant bien un an et demi à peu près. Et ensuite vient le dernier truc, mon dernier projet musical, qui est le projet actuel, même si avec YouTube, j'ai pas eu le temps de trop l'alimenter ces derniers temps, c'est le projet Mitsugi. Donc je suis revenu un peu à mes origines, juste mon prénom. Et en gros, dans tout ce que j'ai fait au Japon, il y a une personne que je considère aujourd'hui comme étant mon meilleur ami, qui s'appelle Yohio. Et peut-être des gens connaissent, parce que Yohio, en gros, c'est un Suédois qui est extrêmement connu là-bas en Suède, parce qu'il a fait deux fois l'Eurovision, il était en finale d'Eurovision, je sais même pas s'il y a pas une année où il a gagné, je suis pas sûr de ça, mais je sais qu'il est en finale. Il est extrêmement connu là-bas, il fait plein d'émissions, tout ça, et en fait il est extrêmement connu aussi pour une chose, c'est que lui à la base il a fait la même chose que moi en beaucoup mieux, c'est que lui il avait son groupe de Visual Kei en Suède, il a commencé très jeune, il est parti faire des tournées au Japon alors qu'il avait à peine à l'époque 15 ans, il a commencé à faire des tournées et là-bas il a tapé dans l'œil de Universal. Et il s'est retrouvé à 18 ans à signer en solo major chez Universal. Et du coup, c'était le premier artiste étranger dans le milieu du visual kei qui a eu une carrière mais de dingue. Il a signé un album major directement, il était sur tous les tabloïds et c'est pile au moment où moi je suis arrivé au Japon. C'est-à-dire que vraiment, je suis arrivé en 2011, il y avait sa tête de partout.
Okay.
Et vraiment, sa carrière japonaise, elle a été lancée à ce moment-là. Et moi, forcément, en côtoyant plein de gens, je l'ai rencontré très tôt, j'ai rencontré en 2012. Donc vraiment au moment de sa gloire où il faisait des tournées partout et tout, il faisait des tournées et au Japon et en Suède. Et c'est devenu vraiment un de mes meilleurs potes. Et c'est un mec, il est adorable, vraiment c'est une crème et c'est Mozart. Et il faut comprendre que Yohio c'est Mozart. C'est le mec qui va dire « Ah tiens, j'ai envie de composer une chanson », il va se mettre une heure dans son truc, il aura composé la guitare, la basse, la batterie, le violoncelle, le violon, et il aura même la voix par-dessus, il dira « Ah tiens, je vais sortir ça ». Tu vois.
Il y a des gens énervants comme ça.
Mais il est pas énervant, il est fascinant. Et moi, j'ai pas son talent, clairement. Mais par contre, on a toujours été vraiment sur la même longueur d'onde, sur la vision qu'on avait de la musique, du milieu artistique, tout ça. Et même si lui, il a une carrière beaucoup plus flamboyante que moi, si je peux appeler ça une carrière, on a toujours été vraiment sur la même longueur d'onde. Et lui, il a créé son propre label en Suède qui s'appelle Chaos, il y a de ça quelques années, pour être indépendant. C'est-à-dire que lui, son contrat avec Universal s'est terminé. Il a créé son propre label pour être indépendant, duquel il a créé d'autres groupes dans lesquels il joue, tout ça, des groupes qui sont plus visual kei, mais plus style metal, tout ça, avec un groupe qui s'appelle Disrain, par exemple. Et en discutant avec lui, donc moi j'arrive à cette période après NME, tout ça, et je lui fais écouter des sons que j'ai, tout ça, il me fait « Mais mec, je sais pas pourquoi je t'ai pas proposé ça plus tôt, mais tu veux pas juste signer chez moi ?» Et j'étais en mode « Non, mais j'avais pas envie de faire le profiteur. » J'étais en mode « J'ai envie de m'imposer moi-même via ma musique et tout. » Il fait « Non, mais t'as pas compris. Moi, je suis producteur. Si je te le propose, c'est que moi, tu m'as tapé dans l'œil et moi, j'ai envie de produire ta musique. Donc, t'as pas besoin de faire tes preuves. Tu les as faites et c'est pour ça que je te le propose. » Et ça, du coup, on parle de ça, c'est 2018 à peu près. Et vas-y, let's go, on fait un truc. Quoi. Et à partir de là, bah, on a commencé à produire des musiques. Et encore aujourd'hui, si tu vas sur Spotify, Apple Music, tout ça, que tu tapes Mitsugi, bah, les sons qui sortent, c'est des sons qui sont produits chez Chaos, qui est son label à lui. Et là, avec YouTube, tout ça, j'ai perdu beaucoup de temps avec le Covid, avec beaucoup de choses. J'ai sorti actuellement 5 ou 6 singles, je crois. Il y avait un projet d'album qui était dans les cartons, que là, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de me replonger dessus. Actuellement le but c'est d'y retourner à un moment, j'ai envie de retourner forcément à ça, donc le but pour moi ça va être de retourner vers ça dans tous les cas parce que voilà, à la base je suis quand même venu au Japon pour faire de la musique, donc c'est dommage aujourd'hui de plus en faire, mais voilà du coup mon parcours musical, ma petite carrière si on peut appeler ça comme ça, c'est très tumultueux mais au final j'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont énormément servi, qui m'ont beaucoup appris et je suis très content au final de tout ce que j'ai pu vivre quoi. I'm walking on the street, believing all the things. 生き切れるくらい歌ってきたよ。 This fire in my heart, it slowly faded out. Cigarette in my
my mouth, my guitar in my hand. あと少しだけ頑張ってやろうと But at this moment I remember you're not there And I'm close to giving up君の中の You know the stage is waiting for me Reboot the backup place to be どこまでも僕は探してみるこれから生まれる歌ってゆく I wear my glasses to the black makeup and still follow me
The simple jacket's gasoline
Now let's start the party ちょっと遠くまで先に続けるよ君がくれたあの言葉を Listen close, now wake up RememberThis magic in you Close the book Your fantasies are coming true It's okay I know you're still watching me In my dreams I'm touching you It's so real Like a star Your light keeps guiding me Whoa All my dreams I turn it into energy So magic I do them like an alchemist Looking at you
C'est énormément d'histoires à raconter et justement YouTube permet de le faire. Il y a énormément d'histoires que tu racontes, de choses complètement folles d'ailleurs que tu racontes dans tes vidéos. Ça a l'air pas réel, mais à partir du moment où on connaît ton parcours, en tout cas, on a entendu parler de ton parcours, on se dit ouais, c'est possible parce que Tokyo est une ville de fous en fait.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est rigolo parce que par exemple, Louis-San, que vous connaissez certainement, Louis-San, souvent il a dit, que ce soit en vidéo, en live ou quoi, aux gens, au tout début, hein, quand j'ai commencé à raconter des histoires, il leur a dit un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui est totalement vrai. Il a dit aux gens, voyez Mitsu, il vous a déjà raconté quelques anecdotes. La réalité, c'est qu'il a des anecdotes que si vous les dites aujourd'hui, sans que vous ayez tout son background, vous allez penser que c'est un mytho. Et si vous n'avez pas vraiment tout. L'histoire de ce qu'a fait Mitsu, il vous en sort juste une comme ça au pif, vous allez dire non, c'est impossible, impossible que t'aies fait ça. C'est pour ça que par exemple, la vidéo sur mon expérience d'idol, dont j'ai pas parlé là parce que c'était très court et puis c'est une longue histoire, où j'ai juste tout à l'heure émis le fait qu'il y avait le papa de Michael Jackson, tout ça, mais c'est un délire, tu vois. Mais si j'arrive sur YouTube, personne ne me connaît, je fais bonjour, j'ai été idol, j'ai fait une soirée avec Hyde et le papa de Michael Jackson, les gens vont dire, mais frérot, arrête de faire ton mytho là, ton podcaster comme on voit maintenant là, c'est tout, tu vois. Non. Il m'est arrivé des trucs de fou. Moi, sur le moment, je m'en rendais pas compte parce que je vivais le moment présent. Et tu t'en rends pas compte quand t'es dedans. C'est vraiment.
C'est après coup.
Après coup, quand t'as du recul. Et tu te dis, ouais, mais c'est un truc de fou en fait ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et voilà, aujourd'hui, après 12 ans et demi au Japon, je me dis, ouais, effectivement, j'ai vécu des trucs qui sont des expériences d'une vie et je suis content de les avoir vécues. Même si elles m'ont pas tout amené là où j'avais envie d'aller. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je suis venu au Japon. Ma vision, c'était devenir un artiste ultra connu qui fait des concerts au Tokyo Dome, tu vois. Ça, je l'ai jamais fait et je ferai probablement peut-être jamais. Mais le fait de viser ça, tout ce que ça m'a apporté comme expérience, ça, par contre, bah, j'en suis aujourd'hui très fier au final. Et c'est ça qui crée un petit peu bah, ce que je suis aujourd'hui et ce que je peux faire aujourd'hui. Et ouais, non, je suis fier de mon parcours malgré tout.
Et du coup, on va en terminer avec ça. C'est justement le fait qu'il y ait suffisamment d'expérience pour nourrir plusieurs vies, hein, que ce soit clair. On a vu dernièrement justement tes galères de transport d'avion, de passeport, etc. T'es venu à Japan Expo où tu nous donnes aussi ton sentiment hein, sur la convention en elle-même. Comment tu arrives à garder un peu d'intimité dans toutes ces vidéos où finalement tu nous racontes ta vie, mais les gens ont l'impression, enfin, tu nous invites chez toi d'une certaine façon et tu nous ouvres la porte littéralement puisque tu l'as fait en plus dans une de tes vidéos, mais tu nous invites chez toi. Est-ce que tu arrives à garder quand même un peu d'intimité malgré tout?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, je pense du point de vue d'un viewer qui regarde ma chaîne, alors je vais expliquer déjà le pourquoi justement de ce côté, je me dévoile un peu, c'est que quand je suis arrivé sur YouTube, à l'époque, il y avait Louis, il y avait Tev, il y avait Ichiban Japan, il y avait Japania, il y avait Pandaman, il y avait Lucas TV, il y avait déjà des gros YouTubers avec des centaines de milliers, pour pas dire des millions d'abonnés, qui étaient présents sur la scène Japon YouTube. Et moi, je suis arrivé, et c'est Tev et Louis qui m'ont dit « Il faut absolument que tu fasses des vidéos parce que tes histoires, elles sont trop bien. » Mais moi, je me disais « Ouais, mais quelle place je peux me faire dans ce milieu-là » C'est dur, au final, de faire une vraie place quand il y a déjà des gros noms comme tous ces gens-là, tu vois, qui font un travail incroyable. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'au final, le seul point différent que j'avais avec les autres YouTubeurs et qui pouvait être ma porte d'entrée dans ce milieu-là, c'était les expériences que j'ai vécues, parce que je sais que j'ai vécu des expériences que les autres n'ont pas vécues. Et je sais aussi que je peux parler de certains sujets dont les autres parlent, sauf que moi je peux en parler en tant qu'insider. Typiquement la vidéo host que j'ai fait, je pense que tous les youtubeurs ont parlé du milieu des hosts, moi j'ai pu en parler en tant que personne qui l'a vécu. Et je me suis dit, ok, est-ce que ne pas axer ma chaîne justement sur parler de mes expériences et de comment je les vis, et peut-être aussi, via ce prisme-là, apporter des connaissances et de l'aide à des personnes qui ont peut-être envie de venir vivre au Japon, ou même ne serait-ce que de venir en tant que touriste au Japon, quoi. Bah, est-ce que c'est pas ça le plus intéressant au final? Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. Et ça m'a amené petit à petit, à force de parler de mes expériences, tout ça, à forcément me dévoiler un peu, parce que pour pouvoir apporter une vraie réflexion sur mon expérience et pour pouvoir apporter un véritable message et de l'aide peut-être potentiellement aux gens qui regardent, bah forcément il faut que je rentre un petit peu en introspection en expliquant comment je suis passé par certaines galères, comment j'en suis arrivé à être SDF. Je souhaite à personne de devenir SDF, mais le fait de raconter comment moi je le suis devenu, ça peut potentiellement aider des gens à ne pas le faire, tu vois. Toutes les galères que je raconte, alors certes oui c'est un peu le jeu de YouTube, c'est toujours sympa de raconter des galères, mais c'est surtout une manière pour moi déjà de démystifier la chose, c'est une manière pour moi aussi de revenir sur ça et de me dire au final ça va, je m'en suis bien sorti, et aussi c'est un moyen pour moi de dire si vous aussi vous venez au Japon, faites attention parce que en faisant ça moi je me suis planté, faites pas la même chose, tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien parler de ce genre de choses. Et du coup en ce qui concerne l'intimité, qui est ce qui était ta question, il faut savoir que je calcule très très bien ce que je montre et ce que je ne montre pas, et je pense effectivement que les gens qui regardent, des fois j'ai des retours, les gens ils disent ouais tu nous montres trop ta vie privée etc, et moi je peux vous assurer que vous connaissez pas ma vie privée, et au final ce que je montre c'est uniquement ce que je juge d'intéressant à montrer, parce que soit c'est une histoire qui est cool, qui juste c'est rigolo, soit parce que encore une fois ça peut être une manière sympa d'expliquer des différenciations entre la culture japonaise et la culture française, d'expliquer des concepts japonais, d'expliquer des idées reçues, et puis voilà, d'apprendre des choses aux gens sur ce qu'est le réel Japon, parce que c'est ce que moi je vis depuis presque 13 ans maintenant.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci à toi pour l'interview, c'était très cool.